Bienvenue à vous qui venez d'entrer dans C'est dans l'art, le magazine d'actualité de Radio Campus Paris, deuxième partie. Pour celles et ceux qui l'auraient manqué, nous avons parlé actu, littérature et musique dans la première partie. Allez l'écouter si vous êtes passé à côté. Et pour cette deuxième partie, nous nous lançons dans une expo, dans la série Adolescence, et nous parlons du film à l'affiche Fanon. Je suis toujours avec Saphir, Chloé, Safia, Violette et Garance. C'est parti pour ces découvertes artistiques.
Bande dessinée,
jeux vidéo et multimédia,
cinéma,
C'est dans l'art sur Radio Campus Paris.
À mon tour de vous parler art médiatique. Allez, je vous emmène dans une mini-série qui fait parler d'elle en ce moment, puisqu'elle traite d'un sujet qu'en réalité, on ne maîtrise pas très bien. Adolescence, c'est le focus dérangeant sur un jeune garçon de 13 ans accusé d'avoir tué une camarade de son collège. Cap sur une histoire à faire froid dans le dos. Est-ce que, déjà parmi vous, certains l'ont vu cette série?
Oui.
Ok, on en a pensé quoi?
Moi j'ai été un peu déçue honnêtement par rapport à tout ce dont on a entendu parler dans les médias. Je m'attendais à quelque chose de vraiment d'extraordinaire et j'ai trouvé ça un peu court et je trouvais qu'il y avait beaucoup de matière à faire plus en fait. Je trouve qu'ils sont arrêtés un peu avant la fin.
Je vais quand même donner mon point de vue et ensuite on en discutera. Mais alors pour vous raconter l'histoire, on raconte Jamie, un adolescent d'apparence normale. Il a un quotidien somme toute banal pour un garçon de son âge. Il vit avec son père, sa mère et sa grande sœur. Et puis il se retrouve catapulté au milieu d'accusations de meurtre, puis arrêté par une descente entière de police chez lui. On écoute un extrait.
On est armés !
Non, mais qu'est-ce qui se passe ?
Vous cherchez quoi ?
Les mains en l'air !
Qu'est-ce qui se passe ?
C'est pas la bonne maison !
Il a rien fait !
Mais c'est qu'un gosse !
Papa, j'ai rien fait, c'est pas vrai !
C'est un bon gamin. Jamie, écoute bien attentivement.
Papa !
Qu'est-ce qui se passe ? Je vais commencer par te demander...
Tu connais une fille qui s'appelle Cathy Léonard ? Oui ? Alors on peut dire que vous êtes amis ? C'est elle qui est morte.
Évidemment, je vais pas vous dire si oui ou non il l'a fait, il faudra voir la série pour ça. En revanche, je peux vous dire que la série pointe du doigt la question de la violence générée chez les jeunes garçons par des idées masculinistes diffusées sur les réseaux sociaux. Il y a une réelle mise en lumière sur la face cachée de ces adolescents qui se développent par le lien virtuel avant tout et qui sont confrontés à des dires et des codes empreints d'une violence souvent sournoise. La série dénote pour son synopsis mais aussi pour sa proposition artistique. L'entièreté de chaque épisode est tourné en ce qu'on appelle un plan séquence, c'est-à-dire qu'ils ne sont tournés qu'en une seule prise. Personnellement, je souligne la prouesse cinématographique qui me semble très juste pour un sujet comme celui-ci, parce que c'est un format qui nous permet vraiment de nous plonger dans l'univers administratif et policier que l'on connaît en réalité peu, surtout dans ces situations de gérer un adolescent. L'immersion est de mise, avec cette caméra qui ne rate rien des réactions, des mots, mais aussi des silences et des longueurs, parfois pesants dans une telle situation. Évidemment, c'est le sujet en lui-même qui fait le plus parler de lui. La série a eu des échos dans le monde entier, jusqu'à même provoquer une réaction du Premier ministre britannique. Celui-ci souhaite diffuser la série Adolescence dans les écoles du pays pour faire de la prévention sur un sujet dont on ne maîtrise pas toujours les codes. Un parti pris sur un sujet sensible, je vous invite à la voir pour vous faire votre propre avis. Alors, passons aux réactions. Est-ce que toi, Chloé, tu l'as vu ou pas du coup ?
Alors non, je ne l'ai pas vu, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Je trouvais ça très intéressant d'aborder cette thématique du féminicide dans le cadre d'enfants, en fait. Parce que la violence existe aussi chez les enfants, évidemment. Elle est même moins bien contrôlée, parce qu'on ne contrôle pas forcément ses émotions quand on est enfant, on ne l'a pas encore appris. Et le sexisme, c'est quelque chose qui s'apprend dès l'enfance. Dès la petite enfance, moi j'ai un petit frère, on a 14 ans d'écart, il adore par ailleurs, mais j'ai déjà été quand même sidérée de l'entendre dire quand il était petit, ah oui mais ça c'est pour les filles, ça c'est pour les garçons, alors qu'il le disait pas forcément quand il était enfant par exemple, enfin tout petit, plus petit, quand il était tout petit vraiment on dansait beaucoup ensemble, à chaque fois que je revenais chez mes parents, voilà, il y avait toujours un moment où on mettait de la musique, on dansait etc, et au plus il a grandi, au moins la danse ça a été quelque chose de possible en fait, parce que ça ne lui était tout simplement plus destiné, et je pense que c'est au niveau du cadre scolaire qu'il a appris tout ça. Voilà pour le petit témoignage personnel. Mais oui, par rapport à l'esthétique dont tu parlais au niveau de la série, je trouve qu'il y a vraiment une mode du plan séquence en ce moment. C'est des prouesses techniques à chaque fois, hein, mais bon, ça fait longtemps qu'on a des prouesses techniques en plan séquence au cinéma, au moins depuis les années 20. Mais là, c'est vrai que Bon, c'est un peu à la sauce Netflix. Moi, c'est peut-être ce qui me retiendrait de voir la série. C'était genre cette genre de signature esthétique assez banale. Mais voilà, la thématique du féminicide, la thématique du masculinisme aussi, avec le contexte d'actualité. Je vous laisserai rebondir là-dessus, parce que je parle beaucoup trop là. Mais par rapport au podcast masculiniste, notamment... Andrew Tate, etc. Joe Rogan, qui a aussi cette vibe très viriliste aux États-Unis. Bon, je pense qu'il y a des choses à faire, des choses à dire.
Saphir.
L'adolescence, c'est quand même une période qui peut être quand même très horrible, notamment chez les jeunes garçons, parce que quand on voit tout le masculinisme toxique, les rapports de domination qu'on voit chez les gamins, leur désir de se prouver quelque chose et de prouver quelque
chose. Alors attention, peut-être faire la différence entre virilité et masculinisme. Parce que le masculinisme, on est dans le cadre vraiment d'une idéologie.
D'accord.
C'est des groupes, en fait, qui vont des fois commettre des meurtres. Il y a des ados qui ont des comportements sexistes et violents, ou virilistes, mais qui ne sont pas masculinistes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément embrigadés.
En fait. C'est vraiment pousser les choses.
Ce sont des groupes politiques.
Les incels.
Exactement.
Je suis pas sûre c'est de bien prononcer.
Donc, voilà, pour la précision.
Ça serait donc plutôt du virilisme, c'est ça, si j'ai bien compris.
Oui, ou du sexisme.
Ou du sexisme, oui, de la part des jeunes garçons. C'est quelque chose d'absolument terrible. Ça peut être une période qui peut être à la fois super, comme une période qui peut être aussi terrible, toxique, pour de nombreux garçons et pour des filles, évidemment. Ça m'inspire beaucoup de mauvaises choses.
Oui, j'imagine, Garance.
Oui, mais justement, je voulais rebondir sur le masculinisme, et je trouve que à contrario, je suis d'accord avec vous que c'est des sujets brûlants, mais en même temps, faire du féminicide une source de divertissement en Netflix et donc de profit. Enfin, du coup, j'ai pas vu la série et j'en ai entendu beaucoup de bien. Mais ça me questionne quand même, parce qu'il y a quand même une esthétisation d'une violence. Et voilà, donc je pense que...
Mais moi aussi, j'avais été un petit peu... je me suis dit, bon, d'accord, le synopsis, à la base, part mal. Et surtout, effectivement, Netflix qui a ce pouvoir de mettre en lumière très vite, très fort, des productions qui sont vues par le monde entier, là, on l'a vu. C'est vrai que choisir un sujet comme ça et de le mettre en lumière comme ça, aussi fort, bon, ça m'a un peu étonnée. Après, moi, j'ai pas forcément l'habitude de regarder des plans séquences, donc j'ai plutôt été saisie par ce format-là. Je rejoins quand même Violette sur le fait qu'il y a plus de choses à dire et avec plus de subtilité, mais je trouve que pour un premier jet, j'ai plutôt été satisfaite quand même de la production. Merci pour vos réactions. Vous écoutez C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle de Radio Campus Paris sur le 93.9 FM à Paris et dans sa région.
C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle de Radio Campus Paris.
À présent, plongeons-nous dans une exposition qui se tient à la Bourse du Commerce nommée Corps et âme. Chloé, tu es allée la voir.
Je vous invite pour une promenade à la Bourse de Commerce. Ici, depuis le mois dernier, une centaine d'œuvres sont rassemblées pour l'exposition Corps et âme. Je vous propose qu'on s'arrête pour écouter son atmosphère un instant. Voilà. Ce que vous venez d'entendre, c'est l'écho d'une installation vidéo de l'artiste Arthur Jaffa, l'une des pièces centrales de cette exposition consacrée à la représentation du, ou plutôt des corps, dans l'art contemporain, majoritairement. Cette œuvre s'appelle « Love is the message is death », en français « L'amour est le message est la mort ». Si le son est plutôt englobant, l'œuvre est un collage d'images vertigineux qui nous plonge dans des états de corps. Arthur Jaffa nous montre des corps qui résistent, des corps qui dansent, des corps malmenés par la police lors d'arrestations violentes, et des corps qui, campés sur une estrade, incarnent leur discours par leurs gestes, leurs mimiques, la façon qu'ils ont de se camper devant le public et devant nous, spectateurs, spectatrices. Ces corps, ce sont ceux d'une multitude de personnes afro-américaines, anonymes ou célèbres, comme ces figures iconiques de la culture noire, Malcolm X, Angela Davis. L'artiste les rassemble pour nous raconter une histoire, l'histoire de cette communauté, dans les États-Unis du XXe siècle.
On commence cette visite avec une œuvre éminemment politique.
Éminemment politique, Léa, oui, comme le reste de l'exposition d'ailleurs. Emma Lavigne, la directrice générale de la collection Pinault, a sélectionné les œuvres d'une quarantaine d'artistes présents dans la collection, qui abordent différentes dimensions de la représentation du corps, culturelle, sociale, spirituelle, historique. J'ai envie de vous emmener, à présent, au dernier étage de l'exposition. Là-haut, on peut s'installer dans un alcôve qui diffuse une playlist de jazz en lien avec l'exposition. Elle est concoctée par Vincent Bessière, un spécialiste du genre. Et là, on vient d'entendre Spiritual du John Coltrane Quartet.
Dispositif original. Est-ce qu'il y a d'autres surprises dans cette expo ?
Absolument, il y en a une multitude dans cette dernière partie d'exposition qui mêle une pluralité de médiums. Vidéo, dessin, peinture, sculpture, photographie. Personnellement, j'ai adoré l'étoile à la fois figurative et mystérieuse de Marlène Dumas et de Mira Shor, le grand dessin de Kara Walker qui nous montre des actes de violence et des phénomènes de persécution sans filtre. Sans oublier le bouquet final, l'installation monumentale de Georges Baselitz qui clôt l'exposition en nous présentant 8 géants suspendus tête en bas dans l'obscurité. Mais j'ai envie de vous parler d'un tableau qui a particulièrement retenu mon attention. J'aimerais finir en vous parlant de Beauty Ex the Mind. C'est une toile de Kerry James Marshall qui aborde un sujet douloureux, mais dont la cruelle réalité historique ne doit pas être oubliée. Le destin tragique de Sarti Bartman. Esclave sexuelle, exhibée comme phénomène de foire pour son physique hors norme, vivante comme morte. On l'appelle la Vénus Hottentote. C'est l'histoire d'un corps chosifié, celui d'une femme noire morte à 27 ans, qui a subi double peine, un racisme et un sexisme inouï, au tout début du 19e siècle. Mais amis auditeurs et auditrices, l'orage gronde. Les cœurs et les corps se révoltent dans l'espace de la rotonde. C'est jusqu'au 25 août 2025. Levez-vous et courez-y.
Une exposition qui questionne les liens entre le corps et l'esprit de bien des manières. Merci Chloé. Allez, passons aux réactions. Safia, qu'est-ce que tu penses ?
Alors moi, je suis très curieuse. J'ai vu l'affiche dans le métro et j'ai fait « waouh ». Il faut que j'aille voir cette expo. Et visiblement, ils se sont passés le mot, puisque j'ai aussi envie d'aller voir Paris Noir, qui passe en ce moment à Paris. Et donc, le programme est chargé.
Violette, qu'est-ce qu'on pense de cette exposition ? Est-ce que ça t'intrigue ? Est-ce que...
Ça m'intrigue complètement. J'avoue que j'arrive pas encore à voir totalement quel est le fil conducteur de l'expo, qui fait que du coup ça me donne encore plus envie d'aller la voir pour savoir. En tout cas, tu nous l'as très bien vendu.
Saphir, je te vois réagir.
Tout comme Violette, je vois pas du tout le fil conducteur, donc ça m'intrigue aussi.
Bah alors le fil conducteur, c'est vraiment la représentation du corps, et en fait c'est une espèce d'ode au corps humain, quoi, parce que là on est vraiment dans le corps, dans les corps pluriels, et il y a une grande place qui est aussi laissée pour les corps noirs, mais en même temps c'est pas, c'est présenté comme étant quelque chose d'absolument normal, c'est-à-dire que c'est pas revendiqué dès le titre, c'est pas le pitch de l'exposition, et c'est ça que je trouve génial, c'est que c'est la diversité, mais genre, où on nous dit, bah en fait, c'est juste normal, quoi, c'est les corps du monde, et les âmes aussi du monde entier, quoi, donc c'est juste, c'est phénoménal, t'as des corps, vraiment des corps que tu vois vivre des trucs dans cette exposition, des manifestations, des arrestations, ou alors l'indépendance d'un pays. Tiens, qu'est-ce que ça fait à un corps de vivre l'indépendance d'un pays ? Qu'est-ce que ça fait à un corps de vivre l'indépendance du Ghana, par exemple ? Parce qu'il y a un artiste qui a travaillé sur ce sujet. Et du coup, tu en sors. Enfin, personnellement, j'en suis sortie avec une énergie et un bien-être dans mon corps qui était génial. J'y suis allée deux fois pour vous dire.
C'est une exposition qui a l'air d'être plurielle. Garance, qu'est-ce que ça t'évoque ?
Bah moi, justement, je me posais la question de... Parce que donc, tu nous as fait écouter de la musique... Et donc, même des sons d'ambiance. Et est-ce que, parce que donc, c'est le corps qui est décliné, du coup, enfin, des états de corps. Et donc, tu as parlé de la révolte, de la violence, de la beauté. Est-ce qu'il y a de la danse, enfin, de la vidéo ?
Alors oui, il y a de la vidéo et à certains moments, il y a de la danse. Ouais. Okay. Il y a une vidéo qui m'a marquée en particulier, et c'est pas de la danse d'ailleurs, mais c'est une présence de corps qui est absolument incroyable. Je me rappelle plus par contre du nom de l'artiste. Mais donc l'artiste, c'est une femme, il me semble, filme un artiste et musicien de jazz qui est seul sur une scène, qui est enveloppé dans une nappe de brouillard au début. Mais en fait, le brouillard semble se dissiper petit à petit. Et juste, le gars est seul. Il regarde comme ça, un peu dans le vide, et il sifflote. Et il a juste... Voilà.
Il a juste sa présence, il sifflote et tout. Il a l'air hyper mélancolique, on dirait un musicien de... Il a une tête de musicien de jazz. Et du coup, tu l'entends. Au départ, je me disais, putain, c'est qui ce connard qui arrête pas de siffler tout le temps, là, dans la salle. Et après, je me suis rendu compte que, ouais, c'était une œuvre vidéo. Et en fait, et juste la présence de cet homme dans la pièce est absolument dingue.
Ça a l'air d'être une exposition intense avec beaucoup de grilles de lecture, donc ça donne vraiment envie d'y aller. Pour rappel, on vient de parler de l'exposition Corps et âme qui se tient à la Bourse du Commerce. Vous avez jusqu'au 25 août pour aller voir ce qu'il s'y passe, je vous le conseille. Et merci à Chloé pour sa chronique. Vous écoutez C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle de Radio Campus Paris sur le 93.9 FM à Paris et dans sa région.
Sculpture.
Littérature.
Musique.
C'est dans l'art sur Radio Campus Paris.
Nous sommes déjà à la dernière partie de notre émission et nous terminons avec le cinéma. Safia, tu nous parles du film Fanon, tout juste sorti.
L'interlocuteur du colonisé est le gendarme ou le soldat. Le monde colonisé est un monde coupé en deux.
Vous ne les connaissez pas, ils sont dangereux. Vous croyez que vous allez changer la nature des Nord-Africains ?
Ce sont des hommes comme vous et moi.
Mais comment vous voulez changer les choses ici?
Alors, j'ai été voir pour vous le film Fanon, sorti en salle mercredi 2 avril. C'est un biopic consacré à Franz Fanon. Et il faudra 10 ans à son réalisateur, Jean-Claude Barny, pour que cette fiction voie finalement le jour. Jean-Claude Barny, rappelez-vous, est le réalisateur du film Le Gang des Antillais, sorti en 2016. Alors, pour commencer, petit sondage, est-ce que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de Franz Fanon ou connaissent son œuvre?
Oui.
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 Super. Alors, qui est Franz Fanon? Fanon est un homme martiniquais, noir, psychiatre et grande figure de l'anticolonialisme. Je vous plante le décor. Le film se passe en Algérie française, coloniale donc. Franz Fanon y débarque pour prendre son poste de chef de service à la clinique psychiatrique de Blida-Joinville. Nous sommes en 1953. En Algérie occupée, Fanon pratique une psychiatrie décoloniale tout en participant activement à la lutte pour l'indépendance. Rien que ça. Alors soyons honnêtes, ce n'est pas un film feel good, pas de happy ending ici. Le film met en lumière la violence du racisme, la violence du colonialisme. On assiste à l'impunité totale des criminels de guerre. On a la rage en regardant ce film. Évidemment, Fanon, qui a fait ses études en France et à Lyon, ne découvre pas le racisme en Algérie. Mais la situation, la condition des Algériens fait écho à sa propre histoire. Dans ce biopic, on voit un Fanon tour à tour témoin ou victime de racisme. On assiste au déroulé de sa pensée. Franz Fanon théorise l'aliénation du colonisé et du colonisateur. On peut d'ailleurs entendre des passages de ses livres. En filigrane, le film pose la question du recours à la violence dans un contexte d'occupation. On voit un Fanon pris en étau entre son espoir, son universalisme et la réalité. On observe son basculement dans l'engagement politique. Il faut rappeler que l'indépendance de l'Algérie est le fruit d'une guerre, la guerre d'indépendance qui a précédé le référendum de 1962. Fanon offre un cadre d'analyse et ce film fait écho au passé et malheureusement au présent. Fanon, c'est un destin, un emblème de la convergence des luttes. Fanon est né martiniquais et il est mort algérien. Ce film met en lumière ses différentes facettes. On y explore sa vie, son œuvre et son héritage. Le film fait preuve d'une grande rigueur intellectuelle et historique. Il rend hommage à Franz Fanon et à son œuvre si singulière. C'est un film engagé car le destin de Fanon est radical. Les images sont belles et le choix de la musique jazz n'est pas un hasard. On note aussi la prestation incroyable de l'acteur Alexandre Boyer. Ce film contribuera à faire connaître cet homme hors du commun. Alors allez voir ce film ou lisez Fanon.
Un film historique retraçant un parcours hors norme, il est à voir d'urgence. Merci Safia. Allez, passons aux réactions. Garance, qu'est-ce que ça t'évoque?
Justement, quand je trouvais que le fait d'allier cette grande rigueur, exigence intellectuelle qui était le penseur qui était Fanon, et de pouvoir le mettre comme ça en valeur au cinéma et du coup auprès du grand public et pas seulement pour des personnes qui vont étudier la philosophie, je trouve ça vraiment bien et surtout que les questions de décolonisation c'est vraiment des questions qui nous occupent aujourd'hui plus que jamais. Donc voilà.
Saphir.
Je pense que c'est une bonne leçon d'histoire sur ce qu'a été la colonisation et la réalité de la colonisation et je pense que certains hommes politiques devraient aller voir ce film.
En plus du grand public, bien sûr.
En plus du grand public.
Violette, qu'est-ce que ça t'inspire ?
Alors moi, j'ai pas répondu au sondage parce que je le connaissais pas, mais vous avez tous dit oui, donc j'avais honte.
Du coup, j'ai rien
dit. Tout va bien. Mais moi, je suis normalement pas hyper. Je suis pas hyper fan normalement des films qui se passent vraiment sur la vie d'une personne. Mais je t'avoue que là, j'ai l'impression que son histoire est tellement complexe et tellement intéressante que je vais y aller. Voilà.
Merci. T'estimes toi, Safia, que le film rend hommage vraiment à la vie de Fanon ?
Oui, puisqu'on. Le film se passe donc en Algérie, et en Algérie, il s'est construit notamment d'un point de vue théorique. Il a beaucoup écrit, il a aussi écrit un livre, L'an 5 de la colonisation algérienne. Donc c'est un passage de sa vie qui est fondamental pour sa pensée.
D'accord. Chloé, pour terminer, qu'est-ce que ça t'inspire ce film ? Tu iras le voir déjà ?
Je pense que oui. Alors, je me méfie beaucoup de la tendance biopic actuelle. Je trouve que les biopics, c'est souvent le documentaire du fainéant. Mais là, ça a l'air. Je savais pas que sortait un biopic sur Fanon. Enfin, c'est dingue. Si ça peut mettre un petit peu les thèmes des coloniaux en valeur auprès du grand public, je me dis pourquoi pas. Donc voilà, en plus tu m'as dit qu'il y avait du jazz, j'adore ce genre de musique, donc ça me rassure un petit peu sur le style. Enfin, on verra, voilà. Enfin, en tout cas, la thématique, je la trouve géniale. Point de vue mise en scène, comme ça un biopic, j'y arriverai méfiante, voilà.
Au mot du peu que j'ai vu, je trouvais que les images en tout cas étaient très belles et que oui. La gestion des couleurs et des lumières était vraiment... Oui. Il y avait ce côté historique en tout cas, du peu que j'ai pu voir, donc du coup ça promet quand même. Merci beaucoup pour vos réponses. Pour rappel, on vient de parler du film Fanon qui est à l'affiche dans toutes les salles. Si Safia vous a convaincu, prenez vos places sans plus attendre. C'est dans l'art, c'est déjà fini pour ce soir et c'était un plaisir d'être avec vous. Merci à vous, Garance, Chloé, Safia, Romane, Saphir et Violette pour vos chroniques et vos réactions.
Merci à toi.
Le programme de la soirée se poursuit sur Radio Campus Paris. En attendant, retrouvez-nous sur radiocampusparis.org pour nous réécouter ou sur Instagram. Comme d'hab, on poste des choses, c'est dans l'art RCP tout attaché. Rendez-vous à la prochaine émission dans 3 semaines pour toujours plus d'art. Portez-vous bien d'ici là et vive l'art sous toutes ses formes.
Retrouvez C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle sur radiocampusparis.org et sur toutes les plateformes de musique à la demande.